Vous écoutez On lit pour vous.
Une première personne en fauteuil roulant a voyagé brièvement dans l'espace. Un texte de l'AFP publié le 20 décembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Une touriste en fauteuil roulant s'est envolée le 20 décembre dernier pendant quelques minutes dans l'espace, à bord d'une fusée du multimilliardaire américain Jeff Bezos, une première mondiale. Michaela Benthaus, une ingénieure aérospatiale allemande devenue paraplégique à la suite d'un accident, a embarqué aux côtés de 5 autres personnes, dont des entrepreneurs, pour cette aventure proposée par l'entreprise spatiale Blue Origin, du fondateur d'Amazon et réservée à quelques privilégiés. Après mon accident, j'ai vraiment pris conscience à quel point notre monde est encore inaccessible pour les personnes en situation de handicap, a-t-elle témoigné dans une vidéo publiée par l'entreprise. Si nous voulons être une société inclusive, nous devons l'être dans tous les domaines et pas seulement là où ça nous arrange. Le décollage a eu lieu dans l'ouest du Texas peu après 8h15 heure locale. La petite fusée, entièrement automatisée, a décollé à la verticale et la capsule dans laquelle se trouvaient les touristes s'est ensuite détachée en vol avant de retomber en douceur dans le désert texan freiné par des parachutes. Lors de cette expérience d'une dizaine de minutes au total, les 6 passagers ont dépassé la ligne de Kármán, qui marque à 100 km d'altitude la frontière de l'espace, selon une convention internationale. Le nouveau patron de la NASA, Jared Isaacman, a salué cette première et félicité Mme Benthaus pour sa persévérance. « Vous venez d'inspirer des millions de personnes », a-t-il assuré sur X. Blue Origin propose depuis plusieurs années déjà ses vols de tourisme spatial dont le prix n'est pas public grâce à sa fusée New Shepard. L'entreprise a déjà transporté plus de 80 personnes, dont des célébrités comme la chanteuse Katy Perry ou encore William Shatner, qui incarnait le mythique capitaine Kirk dans la série Star Trek. Des invités de marque destinés à maintenir l'intérêt du public autour de ces vols, sur fond de concurrence entre plusieurs entreprises privées. Le grand concurrent de Jeff Bezos dans ce domaine est Virgin Galactic, qui propose une expérience similaire de vol suborbital. Mais Blue Origin a également l'ambition d'aller plus loin et souhaite se positionner sur le marché des vols en orbite et concurrencer SpaceX d'Elon Musk. L'entreprise a ainsi réussi cette année à mener 2 vols non habités en orbite grâce à sa fusée New Glenn, bien plus puissante que New Shepard. C'était une première personne en fauteuil roulant à voyager brièvement dans l'espace, un texte de l'AFP, publié le 20 décembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Voyager dans l'espace et faire des bébés, un texte de Mathieu Perrault, paru le 20 décembre 2025 dans la presse. Une lectrice, Emma Boileau, a posé cette question. Aller dans l'espace, affecte-t-il la fertilité? Peut-être, mais les études à ce sujet ont été limitées jusqu'à maintenant. Les voyages dans l'espace pose plusieurs risques pour la santé reproductive, explique Ulrike Lüderer, toxicologue de l'Université de Californie à Irvine, qui a publié une revue de littérature sur le sujet en 2019 dans la revue Nature Reviews Endocrinology. Il y a des risques pour ce qui est des radiations, de la microgravité, de l'hypergravité, des altérations du rythme circadien et plus généralement du stress physique et psychologique. La fertilité des astronautes, hommes et femmes, ne semble pas avoir été affectée par un séjour dans l'espace, selon Mme Lüderer. Des grossesses avec des rats de laboratoire ont été menées en partie dans l'espace pour des expériences scientifiques soviétiques et américaines dans les années 1970, sans effet évident. La NASA a même testé l'hypergravité que les astronautes subissent lors du lancement sur des souris enceintes. Il semblait y avoir plus de fausses couches, mais comme il y avait peu de cobayes, il est difficile de tirer des conclusions de cette expérience. Radiation. Ce sont les radiations qui représentent le plus grand risque, selon la toxicologue. Les ovaires sont très sensibles aux radiations, observe-t-elle. La Terre est protégée des radiations solaires par le champ magnétique qui l'entoure. Et la protection offerte par le champ magnétique s'étend jusqu'à l'orbite où circule la Station spatiale internationale, SSI. Les astronautes féminines qui s'y trouvent ne sont donc pas plus exposées à ce risque. Les spermatozoïdes, de leur côté, semblent moins affectés que les ovaires par les radiations spatiales, selon des études sur les animaux. Deux des 24 astronautes qui se sont rendus jusqu'à l'orbite lunaire durant le programme Apollo ont eu des enfants par la suite. Les autres avaient eu leurs enfants avant d'aller dans l'espace. Mais on ne connaît pas l'impact à long terme des radiations spatiales sur les spermatozoïdes, note Ulrike Lüderer. En d'autres mots, si l'humain devait éventuellement habiter sur la Lune ou sur Mars, les femmes pourraient devenir infertiles à cause des radiations. Elles pourraient donc faire prélever leurs ovaires avant de quitter la Terre ou avoir recours aux dons d'ovules pour tomber enceinte. Les hommes aussi seront peut-être infertiles et devraient se tourner vers des dons de sperme. Pendant une grossesse dans une station spatiale, les femmes devraient être protégées des radiations et ne devraient donc pas sortir de la base. Tourisme. Quant aux impacts de la microgravité et de l'hypergravité, il faudra plus d'études pour être certain qu'ovaires et spermatozoïdes ne sont pas affectés. Avec le tourisme spatial, il se peut qu'il y ait beaucoup plus de gens dans l'espace, note Mme Lüderer. Le stress et l'altération du rythme circadien, c'est-à-dire la succession des nuits et des jours, peuvent aussi avoir un impact sur le cycle menstruel et donc affecter la fertilité, ajoute-t-elle. La chercheuse californienne s'intéresse à la santé reproductive spatiale dans le cadre de recherches sur l'effet des radiations sur les organes sexuels, notamment pour les gens qui y sont exposés davantage à cause de leur travail, comme les pilotes, les agents de bord et les soignants opérant des appareils d'imagerie médicale. Nous avons eu des contrats de recherche de la NASA pour étudier la question dans leur laboratoire simulant différents niveaux de radiation spatiale, précise-t-elle. En savoir plus, source Cité de l'espace, 642, nombre d'astronautes qui ont séjourné dans l'espace. C'était « Voyager dans l'espace et faire des bébés », un texte de Mathieu Perrault, paru le 20 décembre 2025 dans la presse.
Les taux de réussite des élèves préoccupent au Québec. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir. Dans plusieurs centres de services scolaires, CSS, de la province, la réussite scolaire des élèves s'est effritée en 2025, à constater le devoir. Inquiets, des acteurs du réseau pressent Québec de s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre et d'investir davantage dans les écoles, dans l'espoir de renverser la vapeur. Le Devoir a épluché les rapports annuels 2024-2025 d'une dizaine de CSS répartis dans plusieurs régions de la province, incluant Montréal, Québec et leurs banlieues respectives. Tous ont noté une baisse des résultats liés à différentes cibles inscrites à leur plan d'engagement vers la réussite. C'est le cas notamment du CSS de Montréal, le plus grand de la province, dont le rapport annuel mentionne que les taux de réussite en français ont baissé, notamment chez les élèves du primaire ayant un plan d'intervention, de même que chez ceux du secondaire ayant fréquenté une classe d'accueil au cours des 5 dernières années. D'autres CSS font pour leur part état d'une baisse des résultats de leurs élèves en mathématiques. C'est notamment le cas du CSS de la Pointe-de-l'Île, dans l'est de Montréal, et de celui des Navigateurs, en banlieue de Québec, où la proportion des élèves en sixième année du primaire qui ont obtenu 70 % et plus à une épreuve obligatoire de mathématiques a chuté de plus de 9 % en 2024-2025 par rapport à l'année précédente. Ce pourcentage atteint 12 % au CSS de la Rivière-du-Nord, dans les Laurentides. Le taux de diplomation et de qualification des élèves après 7 ans a par ailleurs diminué de 2 % à l'échelle du Québec entre 2023 et 2024, une descente qui s'élève à 3,2 % en moyenne dans l'ensemble du réseau montréalais. C'est préoccupant, lance Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise de direction d'établissements scolaires. En entrevue, elle souligne que les baisses notées surviennent après une amélioration graduelle de la réussite des élèves au fil des dernières années. « Ça devrait tous nous inquiéter », ajoute-t-elle. La Fédération des CSS du Québec assure pour sa part qu'afin de favoriser la réussite éducative, les équipes écoles s'investissent quotidiennement et proposent plusieurs services pour soutenir la motivation et la persévérance de tous les élèves. Cercle vicieux. Le président du syndicat de Champlain, Jean-François Guilbeault, qui représente les enseignants et le personnel de soutien au sein de plusieurs CSS de la Montérégie, n'est quant à lui pas surpris par la baisse des résultats des élèves dans sa région. Comme d'autres intervenants, il l'associe à la pénurie de main-d'œuvre et au manque de financement consacré au réseau scolaire public. Quand on parle de dévalorisation de la profession enseignante, la première clientèle qui écope de ça, ce sont les élèves vulnérables, affirme M. Guilbeault. Car la pénurie de personnel, incluant celle de soutien et professionnel, joue sur la qualité de l'enseignement, la qualité de l'encadrement et ultimement sur la réussite des élèves, complète Kathleen Legault. Ce n'est pas un problème simple, mais il faut s'en préoccuper, plaide-t-elle. Le manque de financement consacré au réseau de l'éducation vient par ailleurs limiter la capacité des CSS à embaucher suffisamment d'aide à la classe et à déployer d'autres mesures destinées à aider les enseignants à répondre aux besoins de leurs élèves en difficulté, relève pour sa part M. Guilbeault. Résultat, des enseignants sont nombreux à fuir le réseau scolaire public, ce qui nuit au service aux élèves et donc à leur réussite, analyse-t-il. On a devant nous un menu qui met tout sur la table pour faire que la situation devienne intolérable dans le milieu scolaire, prévient-il. Trop d'heures rémunérées. Ce sont d'autre part 9 des 10 CSS dont le Devoir a analysé le plus récent rapport annuel qui ont dépassé en 2024-2025 les cibles en heures rémunérées de leur personnel qui avaient été établies pour chacun d'entre eux par Québec. Un écart de plus de 10 % est noté au sein de plusieurs organisations qui expliquent cette situation par la croissance du nombre de leurs élèves et la pénurie de personnel. Le CSSDM connaît une pénurie importante dans certains emplois, dont en enseignement, en éducation spécialisée, en orthophonie, en psychoéducation, en psychologie, en service de garde et chez les préposés aux élèves handicapés. Afin d'amoindrir les effets de la pénurie, le personnel a travaillé en temps supplémentaire ou en dépassement de tâches, évoque ainsi le rapport annuel du plus grand CSS de la province. Il faut saluer les centres de services qui déployaient les heures supplémentaires nécessaires pour répondre aux besoins, réagit le président du syndicat de l'enseignement de la région de Québec, François Bernier. Or, Québec a imposé l'été dernier des plafonds d'embauche, conditionnels à l'accès à un soutien financier, qui pourrait avoir entraîné une baisse de la qualité des services offerts aux élèves pendant une partie de l'année scolaire, prévient M. Bernier. Puis, en octobre 2025, la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, a levé les plafonds imposés par son prédécesseur, Bernard Drainville, tout en précisant que les CSS devront maintenir une cible d'embauche pour assurer un suivi rigoureux de leurs dépenses. Ainsi, encore aujourd'hui, il faut faire des choix difficiles, comme de limiter le nombre de personnes qui peuvent être libérées pour suivre une formation, afin de limiter le nombre d'heures énumérées dans le réseau scolaire, dit Mme Legault. Résultat, c'est la qualité de l'éducation qui est en train de prendre une débarque, lance M. Bernier. Dans le contexte budgétaire actuel, les centres de services scolaires s'assurent de minimiser les impacts sur les services aux élèves, assure pour sa part la Fédération des CSS du Québec, qui confirme que le personnel en congé de maladie et de maternité que les CSS doivent tenter de remplacer fait partie de la cible d'effectifs établis par Québec. C'était « Les taux de réussite des élèves préoccupent au Québec », un texte de Zachary Goudreau, paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir.
Le vaccin contre le zona et contre la démence. Un texte de Mathieu Perrault paru le 30 décembre 2025 dans la presse. Le vaccin contre le zona protège contre la démence et peut-être aussi celui contre la varicelle selon trois nouvelles études. Elle pourrait rendre encore plus importante la vaccination contre ces deux maladies causées par le même virus. Seuls 40% des Québécois sont vaccinés contre le zona. On sait que les infections chroniques peuvent augmenter le risque de démence, explique Étienne de Villers-Sidani, neurologue à l'Institut neurologique de Montréal, Neuro. Comme le virus de la varicelle reste, après la maladie, dans les ganglions des racines nerveuses sous forme inactivée, il se peut que ça crée de l'inflammation chronique dans le cerveau. Le docteur de Villers-Sidani mentionne une grande étude publiée depuis octobre dans la revue Nature Medicine, basée sur le suivi de 100 millions de patients aux États-Unis entre 2007 et 2023. La diminution du risque de démence liée au vaccin contre le zona était de 20%. Plusieurs études de moindre envergure ont montré dans le passé que le vaccin Zostavax contre le zona diminue de 5 à 20% le risque d'avoir une démence sur une période de suivi de 7 ans. Le zona est causé par la réapparition du virus de la varicelle qui se cache dans la racine de certains nerfs dans le cerveau, sous forme inactive, après une infection infantile. Cela permet de penser que le vaccin de la varicelle donné aux enfants depuis 20 ans aura aussi un effet protecteur, selon Pascal Kelsetzer de l'Université Stanford, l'auteur de la principale de l'étude de Nature Medicine. Chantal Sauvageau, membre du Comité sur l'immunisation du Québec et médecin spécialiste à l'Institut national de santé publique du Québec, ajoute que le vaccin contre le zona utilisé depuis 2023, Shingrix, est beaucoup plus efficace pour prévenir l'infection, 90% contre 50% pour le Zostavax que les participants de l'étude de Nature Medicine avaient reçu. Le même groupe de l'Université Stanford a publié deux autres études en mai et en décembre sur plus de 280 000 Anglais nés entre 1925 et 1942. Le risque de démence diminuait aussi de 20% avec le vaccin contre le zona, de même que la progression des troubles cognitifs. Médicaments. Pourquoi le zona augmente-t-il le risque de démence? Probablement à cause de l'inflammation causée par le virus quand il se réactive, ce qui endommage le cerveau et pourrait augmenter la production de protéines tau associées à la démence, selon les chercheurs du Neuro et de Stanford. Le docteur de Villers-Sidani ajoute qu'il est possible que le vaccin contre le zona aide le système immunitaire à éliminer ces protéines tau ou qu'il améliore la santé des vaisseaux sanguins du cerveau. Cette étude pourrait rendre encore plus intéressante la vaccination contre la varicelle et le zona, selon la docteure Sauvageau. Actuellement, 90% des enfants ont reçu le vaccin contre la varicelle et 40% des plus de 65 ans celui contre le zona. Le vaccin contre le zona est recommandé dès 50 ans, mais il n'est gratuit qu'à partir de 75 ans et pour les immunosupprimés adultes depuis 2024. Nous recommandons maintenant que l'âge, pour la gratuité, soit abaissé à 50 ans, dit la docteure Sauvageau. En savoir plus, 487 000, c'est le nombre de Canadiens de plus de 65 ans atteints de démence. C'était le vaccin contre le zona et contre la démence. Un texte de Mathieu Perrault paru le 30 décembre 2025 dans la presse.
L'inaccessible cohabitation durable. Un texte de Louise Maude Rioux-Soucy, paru le 30 décembre 2025 dans Le Devoir. Avec la série « Point de bascule », l'équipe éditoriale remonte la ligne du temps jusqu'au référendum de 1980 et braque les projecteurs sur des Québécois dont le legs a marqué notre paysage sociopolitique. Aujourd'hui, la crise d'Oka, par la voix de Cathy Tsakwas, Ellen Gabriel. Sur papier, la crise d'Oka aura duré 78 jours. Chaque anniversaire depuis s'entête à nous rappeler que ces braises couvent encore. 35 ans plus tard, on pourrait même croire que le temps a suspendu son vol, tant les plaies d'hier sont toujours vives et les relations tendues aux abords de la Pinède où tout a basculé le 11 juillet 1990. Ce jour-là, le caporal Lemay sera tué pendant une descente policière bâclée. L'opération visait à démanteler une barricade autochtone élevée pour protester contre l'agrandissement d'un terrain de golf sur un cimetière ancestral. S'ensuivra un siège armé, une anomalie en soi dans l'histoire du Québec, qui verra aussi la mort d'un aîné Mohawk, Joe Armstrong, terrassé par le stress peu après avoir été la cible de manifestants armés de débris et de pierres, alors qu'il prenait part à un convoi d'évacuation avec d'autres aînés, des femmes et des enfants. La résolution douloureuse du siège servira de prélude à la commission Erasmus Dussault. Celle-ci jettera les bases d'une redéfinition des rapports entre autochtones et non-autochtones qui reste à faire, des décennies plus tard. Il y a eu des avancées, bien sûr, des exemplaires, comme la paix des Braves, une entente de nation à nation conclue entre les Cris et le gouvernement Landry. De puissants électrochocs aussi, comme l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, où la Commission vient sur les relations entre les Autochtones et nos services publics. Mais leurs recommandations tardent à s'incarner dans le réel. Il suffit de regarder du côté de Kitsisakik pour mesurer combien la justice n'avance pas au même rythme pour tous. Jusqu'à décembre dernier, la communauté Anikinabé n'avait pas d'électricité. Et d'un océan à l'autre, des dizaines de réserves autochtones vivent sans eau potable. Un laissez-faire semblable s'observe autour de la Pinède. Personne ne veut d'une nouvelle crise d'Oka. Mais la vérité, c'est que, tant à Ottawa qu'à Québec, on a échoué à mettre en place les fondements essentiels à l'instauration d'une cohabitation durable entre Kanisataké et Oka. On accepte donc que la vie s'organise sur des fondements inflammables. Et même si des voix de bonne volonté se retrouvent autant au sein de la communauté Mohawk que parmi les Oquois, tous sont condamnés à rejouer dans le même film usé par trois siècles de tiraillements territoriaux irrésolus. À Kanisataké, la vie elle-même est plombée par une gouvernance interne viciée et des activités illicites mêlant trafic de cannabis et déversement de déchets toxiques. L'horizon paraît si bouché qu'ils sont nombreux à peiner à imaginer que la lumière puisse s'y frayer un chemin. L'artiste et militante écoféministe Cathy Tsakwas, Ellen Gabriel, elle, y arrive. La documentariste avait 31 ans quand elle a été choisie comme porte-parole de la résistance autochtone en 1990. Depuis, ses convictions n'ont jamais faibli. Sa voix non plus, y compris aux heures les plus sombres, alors que l'extrémisme autochtone sera classé dans la catégorie « terrorisme intérieur » ou « extrémisme intérieur ». Il le restera d'ailleurs tout au long des années 1990, comme le montrent des documents déclassifiés du Service canadien du renseignement de sécurité récemment rendus publics par CBC Indigenous. Dans ces pages, la Mohawk Warrior Society, une organisation traditionnaliste peu structurée, est décrite comme un groupe rebelle et paramilitaire, potentiellement armé et déterminé à défendre ses intérêts. Une lecture que réfute Mme Gabriel, dont l'avis concorde avec les observations de la Gendarmerie royale du Canada. Celle-ci a en effet conclu qu'aucune des armes que les Warriors étaient soupçonnés de posséder n'avait été retrouvée, à l'exception d'un fusil semi-automatique saisi dans la Maison Longue de Kanawake. Depuis le siège de Kanisatake, Cathy Tsakwas, Ellen Gabriel, travaille à déconstruire un discours qui voit une menace dans la ténacité de son peuple à protéger ses valeurs et son territoire. Elle l'explique en des termes collectifs qui dépassent la mission d'une seule femme. « Le territoire, explique-t-elle, est celui qui enseigne, donne la vie et la préserve. La survie de son peuple, comme de sa culture et de son identité, y sont donc étroitement liées. » Dans leur petite bulle de France suspendue au nord d'un continent anglophone, les Québécois sont bien placés pour le comprendre. Dans « Quand tombent les aiguilles de pin » publié en 2025, Cathy Tsakwas, Ellen Gabriel, trace aussi des parallèles entre le combat des Autochtones et celui d'une humanité livrée à la dureté d'un monde en contexte de polycrise climatique, politique, économique et technologique. Sa foi en la puissance du collectif contre tout ce qui rapetisse, divise et blesse rappelle au premier comme au second l'infinie puissance d'une solidarité à réenchanter. C'était « L'inaccessible cohabitation durable », un texte de Louise Maude Rioux-Soucy paru le 30 décembre 2025 dans Le Devoir.